Radio-Canada, audio.
Le premier épisode s'intitulait « La vie ». Le deuxième, c'est la mort. Parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer quand on traite de maladies rares. Il existe des maladies infantiles qui vont rapidement prendre la vie de jeunes enfants. Des maladies dégénératives, ça c'est quand le corps et les organes d'une personne vont tranquillement l'abandonner. Des maladies qui viennent avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et d'autres maladies plus insidieuses, en apparence inoffensives ou presque, mais qui peuvent finalement s'avérer fatales, comme ce fut le cas pour mon bon ami Benoît, décédé subitement il y a 10 ans. Rare, la loterie génétique, c'est un balado qui s'intéresse aux maladies rares ou orphelines. La communauté scientifique en aurait identifié pas moins de 7000 à travers le monde, et au Québec seulement, pas moins de 700 000 personnes vivraient au quotidien avec l'une d'entre elles. Bref, c'est pas si rare que ça. Et de ces 700 000 personnes, on compte moi, Kevin Breton. Je suis journaliste au service des sports de Radio-Canada, mais aussi porteur d'un gène bien particulier qui fait de moi quelqu'un, bien, de pas mal rare. Et dans cette série d'épisodes, on va explorer ensemble ce que ça implique d'être une petite rareté dans le patrimoine génétique de l'humanité. En septembre 2013, il y a 10 ans, j'ai fait ce que bien des jeunes adultes ont décidé de faire. Poussé par une envie d'explorer l'inconnu, mais aussi motivé par l'idée de repousser un peu plus mon entrée sur le marché du travail, j'ai fait un voyage de 3 mois en Europe en sortant de l'université. Une petite aventure sur 4 roues qui m'a amené à tester mon autonomie, mais aussi l'accessibilité dans d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne, en France et en Belgique. C'était assurément la période la plus enivrante de ma vie. Un moment où j'avais envie de me prouver que j'étais capable de me débrouiller entièrement seul à 7000 km de mes proches pour la première fois de ma vie. Et j'en retiens de bons souvenirs, mais c'était ardu. J'avais trouvé un petit travail à Namur et je me cherchais un appartement à proximité. Sauf que j'ai découvert que des logements adaptés en Europe, ben, ça court pas les rues. Je me suis finalement déniché un minuscule studio auquel je pouvais accéder grâce à une rampe de fortune que je devais gravir comme un petit Tony Hawk des pauvres. Avant de trouver ce logement, je passais d'auberge de jeunesse à auberge de jeunesse ici et là, en trimballant mon petit baluchon et en publiant des messages de recherche de logement un peu partout. Je me souviens d'un arrêt en particulier dans une auberge de Bruges, dans le nord de la Belgique. J'allais passer quelques jours là en attendant de me trouver un vrai pied à terre. Et aussitôt arrivé, ce que j'ai fait, ben, je me suis connecté au Wi-Fi pour consulter mes messages dans l'espoir d'avoir obtenu un retour positif. Dans ma boîte de réception, j'avais bel et bien une correspondance étrangère, mais qui me provenait du Québec, d'une personne que je connaissais pas, mais qui m'annonçait avec regret le décès d'un ami en commun, Benoît. Benoît faisait partie de ma cohorte au baccalauréat à Sherbrooke. Il était dans mon groupe d'amis proches de la journée d'initiation jusqu'à la soirée de graduation qui venait d'ailleurs tout juste d'avoir lieu il y a quelques mois à peine. L'ami dans les travaux d'équipe, le chum de brosse et le collègue au journal étudiant. Mort comme ça, subitement. Il est décédé après une simple balade en vélo sur le Mont-Royal. Son aorte, le plus grand vaisseau sanguin du corps, a cédé tout bonnement. C'est un choc, une nouvelle que je parvenais pas tout à fait à assimiler au travers du chaos néerlandais tout autour de moi. Et je me suis rappelé qu'il nous avait déjà parlé d'un syndrome dont il était atteint, le syndrome Ehlers-Danlos. Et tout d'un coup, ça expliquait bien des choses. Tout d'abord, il faut que je vous présente un peu Benoît pour bien comprendre le personnage. Benoît, c'était le gars le plus malchanceux de la Terre. C'en était même devenu un gag à travers tout le département. Il portait la poisse, comme on dit. Tellement qu'entre amis, quand on se réunit pour se rappeler de lui, c'est toujours de ses malchances que l'on parle en premier. La fois qu'un quidam avait renversé son café sur son ordinateur quelques heures avant qu'il doive remettre un travail. Quand on lui a retiré un stage à la dernière minute dans la fonction publique parce qu'une personne avec le même nom que lui avait un dossier criminel. Quand un arbre est tombé sur son auto, alors qu'il faisait juste simplement son stop, comme tout bon citoyen à un coin de rue, ce genre de coup du sort improbable-là, qui fait en sorte qu'on se disait qu'il n'aurait pas survécu bien, bien longtemps dans la série de films Destination Ultime. Mais aussi d'autres signes, comme il arrivait souvent à l'école avec des attelles, un bras cassé, des béquilles, des bleus un peu partout. Puis c'est pas qu'il se battait souvent, là. C'était le gars le plus doux de la Terre. Mais il menait un combat, justement, contre une maladie rare et silencieuse, ce mystérieux Ehlers Danlos. Je vous l'ai déjà dit, moi-même, j'ai une maladie rare, et je savais pas que Benoît et moi, on partageait ça. Les deux, on était atteints d'une des quelques 7000 maladies rares diagnostiquées à travers la planète. Et ça montre à quel point le spectre des maladies rares est large, parce que nos deux conditions étaient diamétralement opposées. La sienne paraissait pas trop handicapante au quotidien. Il pouvait marcher, courir, faire du vélo. C'est même lui qui m'a si souvent trimballé au sommet des escaliers exigus chez lui, dans son appart à Sherbrooke, alors qu'on était pas mal éméchés après une soirée arrosée. Mais ma maladie, contrairement à la sienne, ne comporte pas de risque de santé à proprement dit. Lui, il risquait d'en mourir. Et il nous avait jamais partagé ça. Ou en tout cas, il nous l'avait dit avec un demi-sourire en coin, sans qu'on sache trop s'il niaise ou non. Est-ce qu'il en était même conscient qu'il pouvait en mourir? Est-ce que c'était une forme d'insouciance? Peut-être. Ou peut-être une forme d'acceptation? Qu'il voulait, de toute façon, profiter de la vie à fond? Je le sais pas. Et j'aurais jamais vraiment la chance de lui poser ces questions-là. J'ai raté ses funérailles parce que j'étais en Europe, ou plutôt je l'ai suivi à distance via mon ami qui me racontait l'hommage en temps réel par message texte. Puis à mon retour de voyage, j'ai rencontré sa sœur, Ariane, grâce à qui j'ai quand même pu obtenir quelques réponses. Est-ce que Benoît t'avait déjà parlé de moi? Est-ce qu'il a déjà parlé de son cercle d'amis sherbrookois?
Il me parlait de ses amis, oui, de Sherbrooke. Il me parlait de des projets beaucoup. Ouais. Il parlait pas beaucoup des gens, mais il parlait des idées, puis il parlait des projets.
Parlais-tu du journal étudiant?
Oui, oui, constamment.
C'est vrai?
Oui.
Ah ouais? Ouais.
Puis j'en ai gardé plusieurs exemplaires, là. Oui, oui, dans ces choses, une boîte à la maison avec des choses qui étaient significatives pour lui. Puis le journal, c'était le collectif.
Oui, exact.
Ouais.
On a travaillé ensemble, il voulait changer le monde au travers le journal. Benoît, là, était comme chef de pupitre de société, puis il écrivait des éditoriaux. Souvent, il se mettait à dos des gens.
Ouais.
Il avait une belle plume aussi.
Oui, puis c'est quelque chose qu'il voulait faire, c'est de parler dans les émissions de société, justement. Là, puis souvent, on t'écoute à la radio, puis on se dit que c'est exactement ça que Benoît aurait voulu faire dans, comme carrière. Puis, ouais, on t'identifie beaucoup.
C'est vrai.
À lui, ouais.
La vie d'Ariane a basculé quand son frère est mort parce que c'est une maladie génétique. C'est une épée de Damoclès qui venait d'apparaître au-dessus de la famille au complet. Il y a trois symptômes principalement associés à cette maladie. D'abord, l'hypermobilité articulaire ou des jointures. Ça peut créer des entorses, des subluxations, des dislocations, et ça à répétition et dès l'enfance. Ensuite, l'extensibilité de la peau, elle est plus élastique. Finalement, la fragilité des tissus, ça veut dire souvent une mauvaise cicatrisation après des blessures ou des chirurgies. Mais le syndrome Ehlers-Danlos, j'ai appris, s'inscrit dans un spectre très large. Il y a beaucoup de variations. Il peut s'accompagner de problèmes gastro-intestinaux, de problèmes neurologiques, de spasmes, de raideurs, de crises de dystonie et bien plus. Et comme les symptômes touchent l'ensemble des systèmes du corps, ben ils peuvent entraîner de graves conséquences.
À l'autopsie, ce qu'il a vu, c'est qu'il y avait une rupture de l'aorte, qui est la grosse artère là, du cœur.
Le
gros vaisseau qui part du cœur. Puis dans sa cage thoracique, là, il y avait énormément de sang là, qui était...
Et ça, j'imagine que c'est un lien direct avec sa condition, avec le syndrome Ehlers-Danlos.
Oui, mais le type vasculaire, là, qui est le type 4, le syndrome de Ehlers-Danlos, il y a plusieurs variantes. Mm. Il y en a que ça va, c'est très hyper élastique, puis il y en a qui ont des douleurs chroniques, il y en a qui ça paraît. Le type vasculaire, c'est plus insidieux. ça, c'est plus au niveau de la composante de la peau, au niveau de la composante des artères, des veines, des vaisseaux en général. Puis lui, ben, il avait une faiblesse au niveau là, des vaisseaux sanguins. Il faisait des grosses varices. Il avait 19 ans, il avait des grosses varices, puis ça le complexait au bout, là. Mais c'est ça, il était...
Ça le complexait.
Ah oui, oui, il était très coquet, hein, Benoît. Ouais.
C'est vrai.
Oui, ah, il était très coquet, puis là, il y avait comme des varices, puis là, il m'en parlait, puis ça le complexait vraiment. Tu sais, il avait fait déjà là, des ruptures de l'intestin, il avait... Mais que c'était pas le premier épisode qui avait des difficultés au niveau vasculaire, mais celui-là, ça a été là, le...
Tragique.
Oui, c'est ça, exactement. Il n'y avait plus rien à faire, il n'aurait pas pu... être cousu, là, c'était pas une option. Puis c'est ça, fait qu'il est décédé d'une rupture de l'aorte. Là, et ça en est... J'aime penser qu'il a eu mal un petit peu dans l'ambulance, mais qu'après ça, il a pas. Ça a été assez rapide, assez direct, puis il a pas souffert, là, outre mesure.
Mais c'est ça, c'est une personne qui était un peu malchanceuse, Benoît.
Oui, puis. Oui, c'était comme. Lui, il se surnommait lui-même comme un corbeau. Il s'appelait Corbeau, son adresse courriel c'était Corbeau, puis ma mère avait fait une plaque d'immatriculation avec ça.
C'est drôle.
Ouais.
Donc, ce syndrome-là, peut-être ça expliquait, mettons, pourquoi des fois on le voyait arriver au journal étudiant avec une attelle ou, tu sais, en béquille, tu sais, il y avait toujours plein de bleu. Puis après sa mort, tu sais, je me suis demandé, mais est-ce que Benoît m'en avait déjà parlé? Puis on s'en parlait, mais il en parlait pas tant de son... En tout cas, dans ses amis, là, il en parlait pas beaucoup de son diagnostic. Puis des fois, il nous en parlait, puis on le taquinait un peu parce que Benoît, il était un peu hipster, là. Il écoutait toujours genre la musique que personne n'avait encore entendue, là. Puis là, quand il nous parlait qu'il avait un syndrome puis qu'il nous disait que c'était un syndrome rare puis qu'on n'avait sûrement pas entendu parler, on était là, of course, tu sais, maudit hipster, même ta maladie est trop rare pour que le grand public la connaisse. On se moquait beaucoup en disant ça de Benoît.
Ça rajoutait au personnage.
Ça rajoutait au personnage, ouais. Toi, t'as le même syndrome que lui, puis c'est grâce à lui que tu le sais, grâce ou à cause, là, je sais pas quel terme utiliser.
Je sais pas, je pourrais pas te dire. C'est à cause de ses symptômes à lui qu'on l'a su. Mais c'est ça, lui, il était un peu dans l'errance diagnostique aussi au début, là, parce que les médecins associaient ça beaucoup justement à la malchance. Puis là, moi, c'est ça, c'est moi qui ai fait les liens entre les différents symptômes. Puis c'est ça, c'est grâce finalement à lui qu'on a réussi à avoir une hypothèse. Puis on avait deux, trois options. Puis là, finalement, on a creusé un peu plus, puis... J'avais accès à l'époque à la base de données de l'université, d'articles scientifiques. Fait que j'ai pu faire des recherches là, moi-même là, dans mon appartement solo. Mais oui, c'est ça. C'est lui qui a mis la table là, de toute cette saga-là. Mais lui, ça a apporté beaucoup de réponses.
Oui, une explication à la majorité de ses bleus.
Ses bleus, c'est au cégep, puis c'était pété le genou dans le talus. Tu sais, il y avait... C'est fou, là, comment, qu'est-ce qui est arrivé, là. Mais pour lui, c'était comme, OK, ben je suis pas justement juste un oiseau noir à qui tout arrive. Il y a ça qui m'est arrivé qui est une grosse affaire, mais c'est pas juste à cause de moi, tu sais.
Ouais.
Puis pour lui, c'est ça, ça a été une genre de révélation, mais aussi, tu sais, il disait à ma mère, il dit, moi, je vivrai pas là, jusqu'à 50 ans. Maman,
ah
ouais,
je le sais,
ça, là. Ouais. Il se voyait pas vieillir. Ah. Il n'était pas suicidaire du tout,
non.
Mais il se voyait pas, il n'avait pas confiance en son corps.
Cette réalité, elle est vécue par un paquet de personnes, souvent en silence. Il y a aussi toutes ces maladies qui sont dites dégénératives quand l'état de santé de la personne dépérit de jour en jour. C'est comment de vivre avec une maladie quand on sait qu'elle peut, à tout moment, mettre un terme à nos jours. Il y a un projet pilote qui a été lancé au Québec pour offrir un soutien thérapeutique aux personnes qui ont des maladies rares. Des séances en ligne pour aborder des questions comme la peur de mourir, mais aussi les nombreux deuils qu'une personne malade devra faire tout au long de sa vie. J'en ai parlé avec la créatrice du programme, Cécile Bardon, professeure au département de psychologie de l'UQAM. Moi, j'ai une maladie rare et je sais que ma réalité est complètement différente qu'une personne qui aurait une autre maladie rare, mais dont le handicap ne serait pas visible, qu'il y aurait des symptômes complètement différents de moi. Mais je pense qu'on est quand même tous un peu habités par certaines questions comme, d'abord, un sentiment d'injustice peut-être, en se demandant pourquoi moi? Et aussi, je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien dans leur corps ou qui sont même qui ressentent de la frustration envers leur corps en se disant, voyons, pourquoi mon corps veut bien pas fonctionner comme la norme?
Exactement. Puis d'arriver à concilier cette espèce de limitation que notre corps impose, ben, c'est quelque chose que la plupart des gens qui vivent avec une maladie rare partagent. Concilier l'impact que ça a sur le regard que les autres portent sur nous. Sur les opportunités qui nous sont enlevées ou qui nous sont offertes de manière limitée. Même si vous n'avez pas les mêmes symptômes, si quelqu'un a des symptômes digestifs, par exemple, versus quelqu'un qui a des symptômes articulaires ou versus quelqu'un qui a des symptômes plus neurologiques, le vécu biologique peut être complètement différent, mais le fait de vivre avec ces symptômes-là amène des points communs qui peuvent être réfléchis ensemble, qui peuvent être traités ensemble.
Et moi, ce n'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de maladies rares qui viennent avec une date d'échéance, tu sais, qui sont des maladies...
Où l'espérance de vie est plus courte.
Oui, où l'espérance de vie est plus courte, qui vivent avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Mais en même temps, on vit tous avec une épée de Damoclès au-dessus de notre tête.
Complètement.
C'est juste qu'il y en a dont l'épée tient à un seul fil, disons, ou que l'épée est plus proche de notre nez.
Et plus visible aussi.
Et plus visible, oui, c'est peut-être plus
ça. Ils sont peut-être plus conscients du potentiel de finitude de leur existence que la plupart des gens qui choisissent, puis c'est correct aussi, là, qui choisissent de ne pas y penser quotidiennement.
Mais pour ces gens qui vont tutoyer la mort, ça doit être... Le rapport à la mort, le rapport à la vie doit changer extrêmement beaucoup. Puis ça doit avoir un impact sur toutes les sphères de notre vie.
Complètement. Puis cet impact-là, il peut être différent selon les personnes, mais la manière d'y réfléchir peut être partagée. La manière de prendre conscience que notre relation à la mort, elle est peut-être pas la même que tout le monde. Que quand on vous dit depuis que vous êtes tout petit que vous vivrez pas vieux, puis que les années passent, comment est-ce qu'on fait des plans de vie? Comment est-ce qu'on fait des choix? Comment est-ce qu'on décide si on va à l'école? Quel genre d'école on va faire?
Quel avenir nous attend?
Quel avenir on se construit, en fait?
Et certains ont un diagnostic plus tard dans la vie alors qu'ils ont déjà commencé à faire des plans. Ça déraille tout, ça?
Ça peut dérailler des plans. Comment est-ce qu'on s'ajuste? Comment est-ce qu'on fait des deuils? Parce qu'il y a la relation à la mort, oui, mais il y a aussi la relation au fait, aux choses qu'on ne peut plus faire, aux choses qu'on pensait qu'on pourrait faire et qu'on ne pourra pas forcément faire. Soit parce que notre corps nous en empêche, soit parce que, comme on disait tantôt, la société dans laquelle on vit n'est pas adaptée au fait qu'on puisse le faire. Donc, toutes ces choses-là, peu importe le diagnostic que vous avez, ce sont des choses qu'on peut discuter quand même ensemble.
Moi, presque, j'ai jamais été en consultation en psychologie. J'ai pas vraiment, jamais eu la chance, je dirais, de parler de mon cas précis avec des spécialistes de la santé. Mais quelque chose que mon entourage m'a souvent dit quand ça allait pas bien pour traverser des épreuves, c'est que la première chose à faire, c'est de s'accepter comme t'es, Kevin. Puis on dirait que c'est comme un blocage que beaucoup de gens ont. Puis j'ai encore aujourd'hui, j'ai 32 ans, 33 ans, je vis très bien avec ma maladie, mais on dirait que c'est encore quelque chose que je comprends pas exactement ce que ça veut dire, t'accepter comme tu es, tu sais. Ça veut dire quoi, s'accepter comme on est?
Hey boy, vous avez combien de temps, là?
Tout le temps du monde.
Oui. En fait, ça, c'est des questions majeures. Puis les travaux qu'on a faits nous ont amenés à construire un programme justement basé sur la thérapie par l'acceptation et l'engagement, qui est une approche très contemporaine des thérapies cognitivo-comportementales. Le but, c'est s'accepter, ça ne veut pas dire renoncer à changer. S'accepter, ça veut dire arrêter d'une certaine façon de se juger, de se culpabiliser de ce qu'on est. C'est être conscient des limites qu'on a et des forces qu'on a surtout. Parce que quand on regarde que les limites, on oublie les forces. Et d'être conscient de c'est quoi finalement notre terrain de jeu dans lequel on est. Puis de dire, bon ben, qu'est-ce que je peux faire avec ce terrain-là? Puis de sortir d'une façon de penser qui peut être négative pour nous autres, de dire, ben, je peux pas faire ça. Ou je suis limitée dans ces choses-là. Ou j'ai perdu ce truc-là. Mais plutôt de dire, à l'intérieur de ces limites-là, mes forces, elles peuvent s'exprimer comment? Et comment est-ce que je peux les mettre en action pour remplir mes objectifs que je me fixe à l'intérieur de ce qui est possible? Et donc, ça peut être une démarche qui est très longue. Il y a des gens chez qui ça vient un peu comme ça. J'en connais pas beaucoup. Mais ça peut être une démarche assez longue. Beaucoup des personnes qui vivent avec des maladies rares vivent de la détresse et ont même des idéations suicidaires.
Ah ouais.
Plusieurs même font des tentatives de suicide.
On remarque chez les personnes qui ont des maladies rares plus de tentatives de suicide.
On n'a pas de chiffres.
C'est difficile d'avoir des données sur
On n'a pas de données populationnelles d'aucune manière là-dessus, mais les gens avec lesquels on a travaillé dans le cadre du programme, la proportion de gens qui avaient des idéations et un niveau de risque élevé était quand même importante par rapport à ce qu'on s'attend à trouver dans la population générale. Mais encore une fois, on a travaillé avec des petits échantillons, là, donc c'est pas généralisable à grande échelle, mais il y a quelque chose qui se passe là. Et c'est normal. Il y a des situations qui peuvent amener beaucoup de détresse dans lesquelles les gens sont. Et cette détresse-là, si elle n'est pas entendue, reconnue, prise en compte, c'est sûr qu'elle ne va pas se régler toute seule.
Oui, parce qu'il y a pratiquement tous les ingrédients, la détresse, l'errance, le regard, l'incapacité de se déplacer, tous des facteurs qui doivent être pesants à un certain moment donné sur le quotidien d'une personne
et complètement.
Son bonheur et son bien-être.
Qui augmente l'isolement, qui génère de l'anxiété... même des besoins de base par rapport à l'insécurité économique ont un impact majeur sur le bien-être et la qualité de vie, essentiellement.
Le deuil aussi, j'imagine.
Les deuils sont très nombreux.
C'est comme une série de importants. Petits deuils, surtout si on a une maladie dégénérative. Notre situation dépérit, donc c'est comme être pour faire un... C'est pas comme tu perds une jambe et là, tu fais le deuil de ta jambe, mais comme petit à petit, tu dois perdre certains acquis.
Ouais.
Ça doit être assez confrontant.
C'est très difficile. Ouais. Et sans aide spécialisée, c'est difficile de prendre conscience de c'est quoi qui nous affecte, comment ça nous affecte et comment est-ce qu'on peut cultiver sa qualité de vie à travers ces choses-là. Je voulais pas dire maintenir, parce que maintenir, il y a comme une notion de... Mais avoir constamment, de se réajuster, c'est dur de se réajuster en permanence à des choses qui nous affectent. Et c'est là que travailler avec la personne, mais aussi travailler avec l'entourage, travailler avec la société dans laquelle on est. D'où l'importance d'avoir du soutien adéquat dans ces moments-là. Et ça, c'est un enjeu que le système médical doit adresser dans les prochaines années. Là. Parce que, justement, on a de plus en plus de patients qui survivent à l'enfance, qui grandissent, qui vieillissent, et pour lesquels comment vivre avec la maladie devient des vraies questions plutôt que juste survivre à la maladie.
Vivre avec une maladie rare, c'est pas juste survivre. C'est aussi exister, avoir des buts, des objectifs, des aspirations, des rêves. Ariane, la sœur de mon ami Benoît, elle avait un rêve profond en elle, celui d'avoir un enfant. J'imagine surtout, après la mort de Benoît, j'imagine te réaliser à quel point cette maladie-là pouvait être mortelle, même si vous n'aviez pas le même type.
Ben oui, complètement. Puis c'est surtout aussi que moi, à l'époque, j'essayais d'avoir un enfant. Ça faisait quelques mois qu'on essayait, puis je savais que j'avais ce syndrome-là, puis je faisais déjà des démarches avec des médecins spécialistes pour être sûr que
préparer le terrain.
Ça se passait le mieux possible. Puis là, quand il y a eu le décès de Benoît, en plus d'avoir là, l'espèce de gros warning rouge sur mon dossier médical, j'avais aussi la mention « frère décédé ». Puis là, les médecins ne voulaient plus m'accompagner du tout là-dedans.
Dans une grossesse?
Non. Puis même que j'avais un stérilet, je voulais faire enlever le stérilet, puis j'ai eu un refus.
On refusait de t'enlever ton stérilet?
Oui, bien par les médecins spécialistes là, de
Mon
la
Dieu.
Maladie. Là, ouais. Les médecins avec le nombre de cas qu'il y avait, je pense que c'était une 20 ou une trentaine de grossesses là, réparties sur pratiquement 70 ans. Là. Où est-ce qu'il y avait eu des études, puis il avait été suivi. Puis c'est ça, ça donnait un taux de mortalité chez la mère de à peu près 15 à 25 %
De risque pendant une grossesse
pour moi.
Pour toi.
Ouais. Puis on était prêts à suivre ce risque-là, là, à prendre ce risque-là.
C'est malade là, quand même, c'est jouer avec la roulette. Russe, là, 15 à 25 % de...
Oui.
C'est une méchante décision.
C'est une grosse décision, mais je sais pas si c'est le fait que j'avais 30 ans puis j'étais... je me sentais forte de ma maîtrise en sciences. Puis je me disais, un N de 27 sur 60 ans, c'est pas significatif. Puis ça vaut pas grand-chose comme statistique au final.
Ouais. T'avais un esprit très cartésien pour calculer ça, genre. Ouais. 25%, ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça, genre.
Ben, tu sais, c'est ça. C'est surtout qu'il y a énormément de sous-diagnostics, là. Mm. Tu sais, comme si ça, comme on disait, si j'avais pas eu de frère, j'aurais pas su, moi, tu sais, que j'avais ça. Ma mère, elle a eu deux enfants, là, puis elle a eu des grossesses à terme, puis elle l'avait, là. Ouais. Fait qu'elle, elle fait pas partie du 25 % là, du 27, là.
Ouais.
Fait que c'est mon esprit cartésien qui m'a aidé à me dire, oui, c'est de la roulette, puis oui, il y a des risques. Puis aujourd'hui, j'en suis très consciente, mais est-ce que c'est vraiment 15 à 25 % Je sais pas.
Tu voulais avoir plus qu'un enfant?
J'aurais aimé ça.
Mais t'as fait le deuil après cette grossesse-là? T'as eu une prise de conscience à un moment donné avec ton conjoint, j'imagine aussi?
C'est... Bien, eux autres, après, j'ai eu une césarienne sous anesthésie générale, pour être sûr qu'il arrive rien. Puis les médecins me demandaient... En fait, me suggéraient fortement là, d'avoir une ligature des trompes en même temps, ce que j'ai refusé parce que j'étais pas prête psychologiquement. Moi, j'aurais été prête à refaire ça. J'ai vraiment aimé ça, être enceinte, mais ça l'impliquait beaucoup, puis ça impliquait beaucoup de risques. Puis maintenant, tu sais, quand t'es tout seul, t'as ton chum, mais tu te dis, oh, c'est vraiment triste,
oui.
Là, mais tu sais...
C'est pas comme laisser un enfant...
Mais là, je laisserais un enfant derrière, ouais. Je laisserais quelqu'un qui a besoin de moi.
Quand on s'est parlé, quand je t'ai parlé pour la première fois de ce balado-là, ça fait presque un an, c'était comme... au printemps, je pense. Puis c'est quand même passé un autre événement majeur dans ta vie familiale entre-temps, tu sais, avec le décès de ta mère, qui est aussi le syndrome de l'Ehlers-Danlos. Ta mère, la mort de Benoît, ça a dû la fouetter à 100 000 à l'heure.
Mes parents, ça les a énormément affectés. Ça les a... ébranlée là, d'une façon que je ne sais même pas si on peut imaginer comment on perd un enfant, comment on peut se relever de ça. À mon humble avis, mes parents se sont jamais vraiment relevés complètement de ça.
Il y a comme déjà la portion de perdre un enfant, c'est un chapitre en soi qui est extrêmement dur à traverser. Mais après ça, il y a tout le lien génétique à travers ça. Puis là aussi, j'imagine qu'il y a une prise de conscience de ta mère. Tu sais,
ma mère s'est mise à avoir peur de tout. Elle s'est mise à avoir peur de la route. Elle s'est mise à avoir peur de l'alimentation, de faire trop de sport, d'aller en voyage, de n'importe quoi.
Alors qu'avant, avant la mort de Benoît, elle était plus...
Elle était beaucoup plus aventureuse, pas insouciante. Elle était toujours quelqu'un de très prudente. Mais là, elle s'est mise à avoir peur de beaucoup de choses. Puis ça la freinait beaucoup là, dans à la fois son entraînement à elle. C'est tout le temps quelqu'un qui était très active. Puis là, étant donné que Benoît a eu un décès, son décès, c'était à la suite d'un accident, bien, d'un effort physique.
Ouais.
Là, elle s'est mise à avoir peur de ça. Après ça, elle s'est mise à avoir peur pour moi aussi, parce que là, j'étais rendue la seule des deux enfants qui étaient encore en vie. Donc ça l'a beaucoup freiné aussi nos relations là. J'avais, tu sais, je lui parlais plus, je n'étais plus là en fin de semaine, je m'en vais dans un chalet avec des amis, puis il fait pas très beau, fait que,
ouais.
Je lui disais pas, tu sais, je voulais pas l'inquiéter, j'avais peur un peu de sa réaction dans tout ce que j'entreprenais, je voulais pas que, tu sais, moi je suis quelqu'un qui est très active là, je fais du sport. Puis là, ma mère voulait pas...
Toi, ça n'a pas changé, ça, après le décès de Benoît. Non. Tu t'es pas mis à avoir plus peur de mourir.
Il y a des sports que je fais pas. Il y a des sports comme le ski alpin, je fais plus ça.
Ah ouais?
Non, le ski de fond, je suis un peu peureuse aussi dans les côtes. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai des problèmes de genoux.
Mm-hmm. Un peu plus prudente, disons,
oui,
maintenant, depuis
plus
la mort de Benoît.
Oui, tout à fait, là. Mais je me suis jamais freinée à aller dans un bed and breakfast sur une île au Costa Rica, accessible juste en bateau.
Ouais,
même si l'hôpital le plus proche était à je sais pas combien d'heures, je veux même pas imaginer, mais tu sais, ça, ma mère, ça la stressait vraiment beaucoup, beaucoup. Là.
Ça doit être dur de trouver l'équilibre entre continuer à vivre pleinement, mais vivre prudemment. Ça doit être un équilibre assez difficile à trouver une fois qu'on a traversé.
Tout à fait.
Puis après la mort de ta mère, Toi aussi, j'imagine, ça a dû te changer aussi ta perception sur la maladie.
Ben oui, comme mon frère était, comme on disait tout à l'heure, très malchanceux, tout y arrivait, puis il y avait des syndromes, tu sais, des symptômes très forts du syndrome. Puis ma mère, elle était pas asymptomatique, là, tu sais, elle avait des problèmes d'épaule, là, des problèmes de genoux, elle faisait des bleus aussi, mais tu sais, c'était pas quelque chose qui l'handicapait. Je me suis toujours dit, ah, moi, je suis comme ma mère. T'sais, dans le fond, on n'a pas vraiment de problème. C'est, j'associais ça à la variabilité de l'expression du gène, du syndrome. Mais là, ma mère est décédée à 68 ans. Puis, on n'a pas vu venir ça du tout. Là. Elle, pour la première fois, elle se permettait d'aller en vacances avec une amie. Puis, elle avait toute fait ses valises. T'sais, elle n'a jamais fait ça, là, partir en vacances toute seule. C'est jamais arrivé. Là. Là, il s'en allait une semaine faire une tournée, là, il allait jusqu'au lac Saint-Jean, il allait faire jusqu'à Rimouski, tu sais, une grosse tournée du Québec, là. Puis c'était comme un test qu'elle se permettait. Si ça va bien dans ce voyage-là, ensuite, je vais faire plus de voyages, j'ai le goût de faire ça, bon. Puis là, ben, toute la voiture était pleine de valises, elle était en train de mettre de l'essence dans son auto. Puis elle a eu un malaise. Puis ils l'ont conduit à l'hôpital. Puis là, ça a été moins fulgurant là, que pour Benoît. Elle avait le choix. Ils ont fait des radios parce qu'ils savaient qu'elle avait Ehlers-Danlos, là, finalement. Puis c'était entre un jeudi et un vendredi, le même mois de septembre. Là, il faisait la même température. C'était dans la nuit, entre le jeudi et le vendredi.
Puis il y avait un petit côté aventurier, les deux. Là. Benoît partait en vélo.
Exact. Puis là, même genre d'heure, là, 3 ou 4 heures du matin, là, on reçoit l'appel. Puis
c'était comme 9 ans plus tard, en fond.
Oui, 9 ans pile poil là, plus tard. Puis...
Mais par ton... comment je dirais ça? Ton goût du risque ou ton goût de la vie, ta mère a eu le bonheur de rencontrer son petit-fils.
Oui.
Et là, ton enfant, est-ce que tu sais s'il a le syndrome Ehlers-Danlos?
C'est une excellente question. J'ai eu le choix, quand il était bébé, de faire le test ou pas. Puis, à l'époque, j'ai décidé de ne pas faire le test. Parce que je jugeais que moi, ça ne m'avait pas rien apporté d'avoir le syndrome. D'avoir la réponse, oui ou non, je l'ai-tu, je ne l'ai pas. Il n'y a pas de médicaments que je peux prendre. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de façon de vivre qui m'améliore ou pas ma situation. Puis ça fait juste comme être un frein à ma liberté, un peu, tu sais. Puis je voyais ce que ça avait fait sur ma mère, que justement, elle s'est mise à avoir peur de tout. Puis là, je ne voulais pas avoir ça pour mon enfant. Fait que j'ai dit non, je ne ferai pas le test. Si jamais, tu sais, puis c'était un bébé, là, on peut pas voir ça. Tu sais, on n'y a pas de syndrome, là, de symptômes sur un bébé. C'est un bébé, c'est en tout cas. Fait que je me suis dit, si plus tard, on voit qu'il y a des symptômes, tu sais, parce que ça paraissait, Benoît, là, puis même moi, là, tu sais, je faisais des bleus facilement. Quand j'avais, tu sais, à la garderie, comme c'est, là, on se pitche partout, on fait du vélo, on tombe, on se fait des gros bobos, puis je me suis dit, bon, si, je vais le voir assez tôt, tu sais, puis une question d'hyperélasticité aussi, là, que à la fois moi j'ai, puis Benoît avait, tu sais. Puis mon fils, il n'est même pas capable de toucher ses orteils, là. Il est vraiment pas souple, là. Il est vraiment pas, là. Il se pète la gueule partout, il se fait même pas une petite écraflure. Fait que je me suis dit, non. Fait que la question, il l'a-tu ou il l'a pas, je sais pas.
Tu le sais pas. Puis en temps et lieu,
Oui, pour l'instant, tout laisse à présager qu'il l'a pas. Puis j'espère que ce serait comme la fin d'une saga, là, parce que ma mère l'avait, mon frère, moi, puis lui, c'est le dernier descendant de cette lignée-là. S'il l'a pas, vu que c'est une maladie qui est dominante, ben lui, il ne peut pas le transmettre là, à sa descendance. T'sais, c'est si tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas caché dans tes gènes comme d'autres maladies, comme ce que je pense que toi, tu as.
Exact.
Fait que c'est ça. C'est un peu là qu'on est rendu, en fait.
Ben, je me considère bien chanceux dans tout ça d'avoir fait ta rencontre, d'avoir fait la rencontre de Benoît et de ta famille au complet.
Merci.
C'était vraiment bon de se rappeler de ces souvenirs-là avec Benoît. Merci beaucoup, Ariane.
Merci pour ton écoute.
Ça fait 10 ans maintenant qu'il existe un vide dans notre cercle d'amis, dans la famille d'Ariane, depuis le départ de Benoît. Il se disait souvent la personne la plus malchanceuse au monde. Mais moi, je me considère tellement chanceux de l'avoir rencontré. Réalisation, montage et musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad. À la recherche, Annie Verret. Idée originale et animation, Kevin Breton. Une production Radio-Canada Audio.